Alors, bye bye, et bon moment de l'autre côté. De notre côté à nous, on va ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Pendant que vous trouvez ça, je joins mes salutations en tant que pasteur de cette église, donc à ceux qui nous visitent ce matin, et on est ravis donc de lire la Bible ensemble, d'ouvrir la Bible ensemble, regardez l'évangile, la plus belle nouvelle, la plus grande nouvelle qu'il existe dans ce monde. On est dans l'évangile de Jean. Si vous vous rappelez, c'était un peu avant l'été dernier qu'on a commencé notre série, et on va la poursuivre donc pour les prochaines semaines. Je sais pas pour vous, mais quand je pars de la maison, ou plutôt quand je rentre à la maison et qu'il y a personne, personnellement, j'aime bien trouver un petit mot. Ça me fait toujours beaucoup plaisir. Ça me touche beaucoup et j'ai la chance. Nathalie, souvent, elle écrit un petit mot et elle me laisse des fois des instructions pour qu'est-ce qu'il y a à faire pour le reste de la journée. Des instructions importantes. N'oublie pas les garçons. Il faut chercher à tel endroit ou tel endroit. Moi, j'ai une vague idée que oui, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais des fois, j'ai perdu de vue les détails, que c'est à 16h30 et pas à 45, par exemple. Et donc, il y a des choses qui sont comme ça importantes à se rappeler. Et j'aime bien avoir un mot à la maison qui me rappelle ces choses-là. En plus de ça, quand j'ai un petit mot, quand je rentre à la maison, souvent c'est affectueux. Et ça termine peut-être par « trop hâte de te revoir, à tout à l'heure, bisous, voilà, je t'aime », des choses simples comme ça, mais ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Et même si je suis seul à la maison, en fait, je me sens pas seul quand j'ai ce mot-là. Parce que je sais que Nathalie a pensé à moi, moi je suis en train de penser à elle, et je sais que même si on est séparés, en fait, on est en train de vivre notre journée ensemble, et qu'en réalité, c'est physiquement qu'on est séparés, mais en réalité, on est en train de poursuivre le même but. L'évangile de Jean nous a relaté jusqu'à présent tout un tas de choses. La naissance de Jésus, donc vous rappelez, la parole faite chair, elle est venue, elle a habité parmi nous. Dieu le Fils, la parole éternelle de Dieu, était un petit bébé, et puis il a grandi, et on a vu son ministère pendant 3 années avec les disciples, avec les foules, avec les chefs religieux, et Jésus a enseigné tout ce qui est nécessaire pour connaître Christ, pour connaître le Père, incroyable, pour que on sache qu'il est le Messie, le roi envoyé par Dieu pour sauver. Et on a vu Jésus à l'œuvre, en train d'accomplir l'œuvre de son Père, c'est-à-dire faire dire la parole du Père pour que tous ceux qui écoutent aient la vie éternelle. Et maintenant, c'est l'heure de l'accomplissement et tout va se boucler, tout va avoir lieu pour terminer l'œuvre de Christ. Christ va être élevé, ça implique la croix, la résurrection, son ascension auprès du Père, un événement qu'on va fêter jeudi. Si Jésus remonte au ciel, ça signifie qu'il sera plus directement présent. En tout cas, pas de la même manière qu'il a été en chair et en os, où les disciples pouvaient manger avec lui, passer du temps avec lui. Et voilà tout d'un coup que le rythme ralentit, parce que Jésus va donner ses instructions pleines d'affection. Comment vivre en tant que disciple de Christ une fois qu'il ne sera plus là? Jésus va donner des encouragements, des instructions. Il explique des choses par avance pour que le moment venu, tout ait un sens et que les disciples soient pas déboussolés. Qu'ils sachent qu'ils sont en train de vivre encore avec lui, même si physiquement, il est plus présent. Ce matin, il y a peut-être des personnes qui sont pas des disciples de Christ. Et j'aimerais que vous entendiez de nouveau, la bonne nouvelle de comment Jésus aime, que vous ayez à cœur de devenir disciple. Peut-être il y a ici ce matin des personnes qui sont des tout jeunes disciples. Et l'idée dans cette série, c'est que on veut apprendre comment devenir des disciples de Jésus. Et peut-être il y en a d'autres qui sont disciples depuis bien plus longtemps, depuis des années, mais on a besoin de ce rappel. Comment marcher comme disciple de Jésus. Alors je vous invite à écouter cette parole de l'Écriture, ces paroles de Jésus, et à écouter son enseignement. On est à Jean, au chapitre 13, et je vais lire versets 1 jusque 20. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête alors !» Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis maintenant, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. J'aimerais développer trois idées, je pense, qui sortent de ce passage à propos de la vie de disciple. Un disciple de Christ est aimé par Jésus à l'extrême. Première idée. La deuxième chose, un disciple de Christ vit continuellement de cet amour, dans la repentance, dans la foi. Et la troisième chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'un disciple de Christ est heureux de suivre son Seigneur. Vous avez vu, verset 1, avant la fête de la Pâque. Et d'un coup, les chapitres 13 jusqu'à 17 se situent donc très précisément, en fait, le jeudi soir qui précède Pâques. L'heure est venue. Cette heure, on l'a vu précédemment dans l'évangile de Jean, c'est l'heure de la croix, c'est le moment où le Messie va donner sa vie pour sauver une multitude de pécheurs. Sa vie parfaite en échange de la leur marquée par le péché. Et vous avez vu donc ce premier verset où Jésus, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'est le dernier souper, le dernier moment d'intimité où vraiment Jésus et les disciples sont rassemblés avant la croix. Bientôt, ils vont être séparés pour un temps. Bientôt, le berger va être frappé et les moutons vont être dispersés pour un temps. Et vous avez vu au verset 2, le diable est apparemment à l'œuvre. Il a déjà mis dans le cœur de Judas l'intention de trahir Jésus. Et on peut imaginer, juste dans le contexte de ce que les disciples et de ce que Jésus a vécu, si vous rappelez un peu la progression des derniers chapitres, les circonstances sont quand même un peu lourdes. On sait que les chefs religieux ont décidé de mettre à mort Jésus. Ils ont décidé de mettre à mort Lazare parce qu'il a Jésus avait ressuscité Lazare. Il y a des menaces très claires, très explicites qui reposent sur la personne de Jésus. Et bien sûr, le moment, c'est au moment où tout le monde va venir à Jérusalem pour célébrer la Pâque. La grande question qu'on a déjà vue dans l'Évangile, c'est est-ce qu'il va venir ou pas, Jésus? Parce que s'il vient, c'est là qu'on peut l'attraper, c'est là qu'il est le plus en danger. Les circonstances sont un peu lourdes, un peu stressantes. Mais il y a quelque chose de plus important qu'il faut voir et qu'il faut savoir. C'est que Jésus a aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde. Et le focus, il n'est pas sur « oulala, attention, qu'est-ce qui va se passer ici ?» Le focus, il est sur Jésus qui est en train d'aimer à l'extrême. Et au lieu de faire des plans pour se protéger, il est en train de aimer ses disciples. Et s'il y a une chose en repartant aujourd'hui qui est important de garder en tête, c'est comment Jésus aime ceux qui lui appartiennent. Jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Vous avez vu, il les a aimés déjà. Le fait simplement de savoir et de comprendre que Dieu le Fils, est venu dans notre monde, dans notre réalité, qu'il a pris un corps humain, une nature humaine en plus de sa nature divine, qu'il a cheminé pendant toutes ces années, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, qu'il a cheminé avec d'autres hommes, d'autres femmes, comme vous, comme moi. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas déjà là une preuve extraordinaire de l'amour de Dieu? Il est venu. Il nous a pas regardé de loin. Il est venu dans notre réalité. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Ça remonte à son amour passé, dans l'éternité passée même, nous dit la Bible. Il a vécu avec des hommes, des femmes comme nous, dans le quotidien, avec des joies, avec des peines. Lazare, on l'avait vu, chapitre 11, a supporté leurs disputes et leurs mécontentements, à se réjouir avec eux quand ils sont revenus de mission et qu'ils étaient tout exaltés en disant « Ouais, le royaume de Dieu, ça marche !» La bonne nouvelle de l'Évangile, ça marche. Dieu est en train de nous sauver. Il a vécu tout avec eux. Et il a aimé faire ça. Et maintenant, Jésus annonce qu'il s'apprête à les aimer encore plus que ça, jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, jusqu'au parfait accomplissement de cet amour, jusqu'à la fin, jusqu'au but final que Dieu s'était donné, de sauver un peuple qui lui appartienne, qui soit restauré comme ses fils et ses filles. Tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant n'est pas une parenthèse dans l'existence de Dieu ou de Jésus. Mais c'est juste l'accomplissement. Et on peut le voir devant nos yeux, on peut le lire ici. Comment Jésus aime à l'extrême. Jésus, vous avez remarqué, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de hasard. Il accomplit les Écritures, il accomplit les promesses, jusque dans les détails. Vous avez remarqué au verset 18, cette phrase, « Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi » est une citation du psaume 41 au verset 10. Ça désigne Judas qui va bientôt le trahir. Mais même sachant tout ça, sachant la trahison, sachant tous ces détails sordides, Jésus a accepté de venir et d'aimer les disciples. Vous avez remarqué, verset 1, il sait que son heure est venue de passer de ce monde au Père. Jésus, verset 3, il sait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il retournait vers Dieu. Jésus sait que rien n'arrive en dehors de son contrôle et de celui du Père. Il est dans l'amour sécurisé de son Père. Et c'est cet amour sécurisé du Père et du Fils, un amour éternel, qui est la base de l'amour extrême et sécurisé de Jésus pour ceux qui lui appartiennent, pour ses disciples. Jésus ne s'en est pas caché précédemment dans l'Évangile, encore ici au verset 19. Tout ce qu'il est en train de dire, il le dit maintenant, pour que quand cela arrive, tous puissent croire que lui, Jésus, il est le « Je suis », il est Dieu lui-même venu manifester son amour. Est-ce que vous réalisez qui est là devant les disciples? Dieu, le Fils, en chair et en os. Et on voit qu'il est opposé. Il y a l'adversaire aussi qui est à l'œuvre. Au verset 2, le diable est mentionné. Et on s'attendrait sans doute à voir Dieu le Fils, prendre Judas et le jeter dehors et peut-être dénoncer le diable qui est présent dans la scène et dire voilà, ça suffit, va-t'en. Je te rends incapable d'agir, d'intervenir. Vous voyez? Comme dans les mangas, là, qu'on lit, où il y a des combats de partout. On s'attendrait à voir Jésus, en train de mettre dehors le diable. C'est pas pour ça qu'il est venu. On s'attend à un combat cosmique. Et du coup, on est surpris. Parce que voici comment l'heure arrive. L'heure de la bataille et de la victoire triomphale du Christ, elle vient. C'est pour ça que Jésus est là, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Mais elle vient pas de la manière dont nous, on l'attendrait. Et Jésus va expliquer ça dans un geste qui est plus qu'un geste, dans lequel il y a quelque chose à comprendre. Verset 7, Jésus dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Donc il est important de comprendre, maintenant que nous avons l'éclairage de tout l'évangile, de la croix, qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Jésus, qui est Dieu incarné, le créateur de tout l'univers, le roi puissant choisi par Dieu, il enlève sa chemise, il se met en Marcel, il prend un torchon, il remonte peut-être son pantalon jusqu'à ses genoux. Il s'agenouille devant ses disciples. Il se met dans la position d'un esclave devant ses disciples. Et pas n'importe quel esclave. On sait que le fait de laver les pieds, c'était une tradition, c'était l'hospitalité qui était requise normalement dans le Moyen-Orient de l'époque. Mais c'était vraiment la tâche la plus vile, la plus dégoûtante à faire. Et tout esclave qu'on était, il y avait certains qui avaient des rangs un peu supérieurs, cette tâche-là, elle était réservée à l'esclave le plus bas de la maison. On a des textes qui nous expliquent que les rabbins juifs recommandaient aux maîtres juifs qui avaient des esclaves à leur service, que cette tâche-là, ils devaient jamais la demander à un frère juif, même si c'était un esclave dans leur maison. Ça devait toujours être un païen. parce que c'était vraiment trop dégoûtant à faire. Je sais pas si vous avez une idée un peu des rues de Jérusalem ou de la Palestine. Bah déjà sur les chemins, il n'y a pas le goudron encore, hein. Donc c'est des chemins de terre. On se balade en sandales, il n'y a pas les Nike encore. On n'a pas les chaussettes, il fait chaud. Donc on sue et la poussière se colle. Et ça c'est encore rien, parce qu'il y a les moutons. Au Tayad, on habitait derrière une bergerie, on avait des fois l'occasion de voir le troupeau qui passait dans la rue. Je peux vous dire qu'un troupeau de moutons qui a passé sur la rue, il laisse des traces, même bien après son passage. Il y a les moutons, il y a les chèvres, il y a les ânes, il y a les chevaux. Il y a, vous imaginez l'état des rues. Il n'y a pas le service des agents publics de Cavaillon qui, on peut les remercier, qui rendent nos rues propres. Les rues sont poussiéreuses, sales. Et voilà que le Dieu, infiniment glorieux, puissant, souverain, beau, créateur, se met à laver les pieds des disciples, un après l'autre. On devrait être presque choqué, étonné d'une telle attitude de la part de celui qui est venu du Père et qui retourne à la droite du Père. Et cette cérémonie, aussi belle qu'elle peut être, n'est rien en fait à côté de ce qu'elle préfigure, de ce qu'elle annonce. Jésus montre ce qui va se passer en avance. Dans quelques heures, lui, l'innocent, le pur, le parfait, va accepter de monter sur la croix. Personne ne prend sa vie. Lui sait pourquoi il est venu. Et de son propre chef, il monte sur la croix pour effectuer un lavage, non pas extérieur, non pas des pieds, mais intérieur, dans le cœur. Il va accomplir jusqu'à l'extrême l'amour de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Il a accepté l'humiliation la plus totale. Il n'y a pas de plus grande humiliation dans toute l'histoire humaine que de mourir sur une croix. Pour les Romains, c'était l'humiliation, non seulement la condamnation et la mort, mais il fallait en plus cette idée de humiliation totale des criminels. Et Christ, par amour pour ses disciples, annonce qu'il va faire cela. Et non seulement il l'a annoncé, mais il l'a fait, nous en sommes témoins. Il a pris sur lui l'humiliation, la saleté, comme l'esclave qui trempe ses mains dans l'eau savonneuse, qui doit mettre ses mains sur les pieds boueux, sales, peut-être crottés, de la personne, prend sur lui cette saleté pour que l'autre qui a ses pieds lavés puisse repartir pur, en train de sentir bon, rafraîchi. C'est l'amour extrême de Jésus. Et je ne sais pas où tu es aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes ici qui se disent « Mais moi, tu ne sais pas ma vie. C'est plus que les crottes de bique dans lesquelles j'ai marché. J'ai vécu une vie de n'importe quoi. Et c'est pas juste mon corps extérieur qui est sale, mais à l'intérieur, mon cœur, il est noir. Il n'est pas beau à voir. Est-ce que Jésus pourrait laver ça ? La bonne nouvelle, oui, Jésus est venu. Il aime à ce point qu'il est capable et volontaire pour laver, frotter à l'intérieur ce que lui seul est capable de faire, pour enlever toute saleté, tu puisses repartir pur, comme baigné à l'intérieur, lavé de tout ce qui te sépare, te rend odieux aux yeux de Dieu. Est-ce que tu as accueilli cet amour? Est-ce que tu es prêt à recevoir Christ en train de te laver, de te purifier? Christ fait une promesse à la fin, au verset 20, il dit « Celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. » Et donc, si tu laisses Jésus laver ton cœur, tu auras la joie de voir aussi le Père t'accueillir dans sa maison comme un fils, comme une fille bien-aimée. Un disciple de Christ est aimé jusqu'à l'extrême. Et nous qui avons fait cette expérience, nous pouvons nous reposer dans cet amour de Jésus manifesté à la croix pour nous. Quand il a commencé à laver les pieds des disciples, vous avez vu la réaction de Pierre. Pierre a dit, mais non, pas moi, tu me laveras pas les pieds, jamais même, il dit. Ça lui semblait trop dégradant, trop indigne pour Jésus de faire cela. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ça fait écho au fait de appartenir à Dieu, n'est-ce pas? Alors, Simon, du coup, maintenant, dans son enthousiasme, lui dit, Seigneur, ben, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui répond, celui qui s'est baigné, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Vous comprenez ici ce que Jésus est en train d'enseigner à Pierre et à tous les autres disciples autour de lui, c'est que si on a accepté, compris, reçu le sacrifice de Jésus, on est baigné une fois pour toutes, lavé de toutes nos fautes. Mais c'est bien réaliste que continuons de vivre dans ce monde. On va être en lutte encore avec le péché parfois. De temps en temps, il va nous arriver de perdre de vue cet amour de Jésus pour nous et de marcher là où on ne devrait pas. Et Jésus dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. On peut se reposer dans le fait que par Christ nous sommes purs. Et nous sommes appelés à rester dans cet amour, à désirer cette pureté, à rechercher cela, à continuer à vivre. Comment est-ce qu'on va faire? Pas en refaisant à chaque fois le sacrifice de Christ, celui-là, il est fait une fois pour toutes, mais en confessant nos péchés, en revenant régulièrement à Jésus, en demandant que le sang de la croix continue son œuvre purificatrice en nous. La question n'est pas de qu'est-ce qui va nous salir extérieurement, mais comment notre cœur parfois nous amène loin de Dieu. Peut-être la question c'est cette semaine, dans quoi est-ce qu'on a traîné les pieds? L'égoïsme? De l'avantardise peut-être? La colère injustifiée? Des paroles blessantes sont sorties de notre bouche? Et si elles sont sorties de notre bouche, c'est qu'elles ont trouvé leur racine dans le cœur. Peut-être la vulgarité des pensées mauvaises. Peut-être on a trahi, peut-être qu'on a manqué de fidélité. La paresse, l'indifférence, est-ce que des choses sont venues? Ben, si vous êtes comme moi, j'ai aussi besoin de revenir à Jésus pour demander son pardon. Pour demander de marcher de nouveau dans son amour. Je veux pas accumuler ces choses-là. Je veux continuer à être dans l'état de pureté que Jésus a acquis pour moi à la croix. Et c'est une exhortation pour nous en tant que disciples. C'est une exhortation réaliste. On va, dans notre marche, dans la vie de tous les jours, être amené des fois à mettre le pied sur des choses dégoûtantes. Mais Christ reste aussi celui qui peut nous pardonner. Il est bon de s'examiner régulièrement dans notre cœur. Non pas pour craindre, non pas pour dire, voilà, ça y est, il faut que j'ai tout perdu. Mais pour revenir plutôt dans l'assurance du salut. Peut-être, il y a beaucoup de choses, si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cet examen-là. Et moi, l'exhortation que je voudrais vous donner, me lancer à moi, c'est commence par une chose. Une chose, puis une autre, et puis une autre. Laisse Dieu te montrer. Mais entre dans cet amour de Jésus et demeure dans cet amour de Jésus. La vie chrétienne commence au pied de la croix et elle se poursuit encore avec en vue la croix de Jésus, toujours efficace pour nous faire progresser dans l'amour pour Dieu, dans la sainteté, pour nous détourner, nous empêcher de retourner à ce qui s'est dit. Si on est tellement captivé par cet amour extrême de Jésus, c'est ça qui va nous garder. On ne veut pas masquer le péché, mais on veut le traiter. Et la manière de faire cela, c'est de revenir sans cesse à Jésus. Un disciple de Jésus est aimé à l'extrême par Jésus. Ça commence avec la croix et ça se poursuit tous les jours de la vie. Et un disciple est heureux. Un disciple du Seigneur, il va se voir parce qu'il est heureux. Il est content. Il est joyeux de suivre son Seigneur. Verset 12, après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis, dit Jésus. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce que Dieu désire, parce qu'il nous aime, c'est le bonheur de vivre dans une relation restaurée avec Dieu, restaurée avec le maître de l'univers, et dans une relation d'amour avec les frères et sœurs, d'une communauté qui vit dans cet amour-là reçu de Dieu. Et Jésus alors nous donne aussi un exemple où la question c'est pas qui est le plus grand, la question c'est pas qui domine comme maître seigneur, parce que lui qui était le roi absolu a accepté de s'abaisser au rang du plus pire des esclaves pour nous sauver, pour nous manifester son amour. Alors Jésus nous demande aussi de manifester ce même amour à ceux qui sont autour de nous. Peut-être en nous gardant d'offenser et de faire du tort aux autres, mais plutôt en nous précipitant à leur service, en désirant et recherchant qu'est-ce qui va aider mon frère, qu'est-ce qui va aider ma sœur. Comment est-ce que je peux lui faire du bien? Comment est-ce que je peux le servir? Si Jésus a fait ça pour moi, moi, je veux aussi faire ça pour ceux qui sont autour de moi. Ça implique d'être nourri par l'amour. Vous pouvez cocher des cases pendant un certain nombre de temps juste par votre volonté, mais à long terme, c'est impossible de faire, d'avoir une telle attitude si ce n'est pas nourri par l'amour même de Jésus. Ça implique d'être en relation avec les autres. Parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est bon de faire pour une personne autour, à côté de nous. Si on se connaît pas, si on vit séparés les uns des autres, on est incapable de faire des choses pertinentes qui vont vraiment manifester l'amour envers les autres. C'est chouette, tout à l'heure, de vivre un temps d'agape ensemble. C'est chouette de se retrouver en groupe de partage. C'est important de prendre du temps les uns avec les autres. Parce que ça nous permet de mieux nous aimer, à l'exemple de Christ. Cet amour est assez extrême si on veut suivre l'exemple de Christ. Il va coûter. On aura besoin d'humilité. La même humilité qui a animé Christ, c'est ce schéma-là qui doit animer notre vie de disciple. Et c'est quelque chose qui doit toucher plus que notre perception intellectuelle, mais qui doit se voir dans notre manière de vivre. Dans notre mariage, on va servir son conjoint, sa conjointe. Dans l'Église, on va servir les frères et les sœurs. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Il y a une communion particulière qui va s'établir quand on va vivre cela dans l'Église. Et celui qui reçoit Jésus, il est aussi en communion avec Dieu le Père. N'est-ce pas des motivations incroyables pour nous cette semaine? N'est-ce pas une sécurité incroyable pour nous cette semaine de savoir Dieu en Jésus nous a aimés à l'extrême jusqu'au bout? S'il l'a fait, il va pas s'arrêter aujourd'hui, il va le faire demain. On peut compter sur lui. N'est-ce pas un appel pour nous à désirer vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour de Jésus? Et n'est-ce pas un formidable encouragement à aimer nos frères et nos sœurs dans l'Église? Que Dieu nous aide, je voudrais prier pour terminer. Nous croyons que tu es je suis, Dieu venu en chair, qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver, l'innocent, le parfait, pour nous, des injustes, des sales, des personnes avec un cœur qui était noir. Et nous te bénissons, notre Dieu, Seigneur Jésus, d'avoir accepté cette humiliation à la croix pour notre plus grande joie, pour notre salut éternel, pour sécuriser l'amour du Père pour nous, pour sécuriser la relation que nous pouvons avoir avec toi. Le diable pouvait bien s'opposer tant qu'il voulait, mais tu savais ce que tu faisais. Et c'est dans cet acte d'humiliation que tu l'as battu à plate couture, qu'il est complètement écrasé, défait, qu'il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et nous te louons pour ça. Nous voulons vivre, Seigneur, comme disciples, comme ceux qui t'appartiennent, tout au long de nos jours. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à fixer les regards sur la croix, pour notre vie personnelle, notre vie dans l'amour, dans la repentance, dans la foi, sans cesse renouvelée auprès de toi. Et aussi un amour pour ceux qui sont autour de nous, en particulier dans l'Église. Nous prions avec confiance, Seigneur, sachant que tu es celui qui va nous donner tout ce dont on a besoin pour faire cela. Merci, Seigneur.